Salut, salut YouTube et Twitch, j'espère que ça va bien en ce jeudi 14 mars 2024. On est parti pour un nouvel hebdo. La semaine dernière c'était le 5. Est-ce que j'avais fait le 5 ou le 6? Je sais plus si j'avais fait le mardi. Peu importe. En tout cas, il y en avait un, le 33, qui était la semaine dernière. Donc c'est une semaine après et 2 jours. Le suivant, il sera beaucoup plus court que la dernière fois. Ça devrait être un des plus courts qui soit parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'actu, que il y a eu plusieurs trucs et tout, mais qui vraiment moi m'intéressaient pas plus que ça. Donc comme d'habitude ça, puis des petites parties de la semaine, pareil, ce sera plus court que d'habitude, parce que quand je fais toutes les semaines, bah forcément j'ai moins de jeux à couvrir que quand c'est 3 semaines de suite. Et on fera une petite partie en solo, pas de jeux vidéo cette semaine. On commençait à prendre d'habitude, mais pas cette semaine. Voilà. Je propose qu'on y aille, et puis salut aussi donc à YouTube et puis au podcast. Allons-y. Et n'hésitez pas bien sûr sur le chat à réagir aux actus. Donc comme d'habitude. Si votre truc c'est le podcast, c'est sur le flux de Playtime, où je mets en ligne tout ça, uniquement avec l'audio, avec les descriptions, les liens et tout comme il faut, de la même manière que dans la description YouTube. Pour l'information, j'ai commencé le montage là, des découvertes de janvier. J'espère pouvoir finir ça d'ici le début de la semaine prochaine, tranquillement. Du retard, mais ma foi, hein. C'est comme ça. Donc voilà, et comme d'habitude. Si jamais vous avez trop d'argent et que vous voulez me soutenir moi plutôt que d'autres gens, il y a un petit Buy Me a Coffee qui est du don ponctuel sans aucune contrepartie. Voilà, tout ça c'est aussi dans la description. Passons aux actus, aux vraies actus, avec pour commencer un retour d'un jeu que j'ai rejoué cette semaine en physique d'ailleurs, qui revient, c'est Yokai Septet. Le grand jeu de pli de Muneyuki Yokuchi que vous connaissez sûrement pour Cat in the Box, qui a aussi fait Only One Collection, qui est trop bien, et Yokai Septet avec cette illustration que moi j'adore, je trouve que c'est un très beau jeu. Et donc ça revient cet été normalement, alors moi je l'ai, hein. C'est en version Pocket, donc c'est un jeu qui à la base est de 3 à 4, c'est un jeu assez particulier, hein. Muneyuki Yokuchi est un auteur assez intéressant, c'est un jeu qui tourne autour du chiffre 7. Qui a 4, c'est en équipe, à 3 c'est chacun pour sa peau, à 2 aussi. 2 c'est une variante de Shunross, qui est un très bon développeur, un très bon auteur de jeux à 2, que ce soit de l'escalade ou du jeu de pli, qui a notamment fait le Hages, qui a aussi fait Vidrasso, qui a aussi fait Dikori. J'aime beaucoup cet auteur. Je trouve qu'il maîtrise très bien le mode à 2. Et le mode à 2 de Yokai Septet, c'est vraiment la configuration dans laquelle j'ai le plus joué, je le trouve vraiment très très bien. J'ai un jeu en physique, il y a vraiment plein de tensions et tout. Donc là, ce sera une Pocket Edition, donc moi j'ai la version normale. Je sais plus qui a illustré ça, mais c'est super. Enfin, il y a un côté, ben, les yokai, etc. Mais c'est un jeu qui est pas si récent, qui avant c'était Seven, autre chose. Je sais plus exactement. Mais donc il a un peu la spécificité d'avoir 7 couleurs de 7 cartes, dont les rangs vont de X à X selon les couleurs. C'est pas exactement les mêmes rangs, ça va. Pour les plus faibles, de l'As, qui est la plus forte carte du jeu quand même, jusqu'au 7, ensuite du 2 au 8, du 3 au 9, etc. Et je vais pour la règle à 4, en gros, y a, si on fait 7 plis, eh ben on perd, mais si on gagne des 7, alors on marque des points, et donc il y a tout ce truc entre attaque et défense qui est très très bien. Et donc là, ce sera alors, c'est vraiment un jeu qui a une très bonne renommée underground. J'ai entendu plusieurs personnes en parler de VF. J'avoue que moi j'ai pas d'infos là-dessus, autant je sais que Robotrick arrive, je sais que Loose va arriver chez Yellow, je sais qu'il y a comme ça plusieurs jeux qui vont arriver et que je connais un peu. Autant Yokai, c'est peut-être, ouais, j'ai entendu ça. Je sais pas chez qui. Écoutez, franchement, super, tant mieux, hein. Enfin, moi je le trouve très bien. Et je le trouve, franchement, enfin, c'est magnifique. Et donc là, ce sera une Pocket Edition. Moi j'ai la version normale, alors il n'y aura pas écrit Pocket Edition dessus, hein. Rassurez-vous, entre guillemets, parce que. C'est suffisant, je trouve que le logo Ninja Star empiète un peu aussi sur l'illustration. C'est du coup une version plus petite. Ouais. À ne pas rater. Il y aura aussi du coup sûrement les petites cartes foil. Je crois qu'ils l'ont présenté du coup à Dice Tower West. Et ça arrivera du coup cet été. Donc vous pouvez souscrire à la page si vous voulez être averti. Après, honnêtement, bon, moi je m'adresse beaucoup à des francophones, hein, sur cette chaîne, je parle en français et tout. Si pareil pour un Robotrick ou quoi, enfin. À moins que l'éditeur qui publie ça en français soit problématique ou quoi, ou je ne sais quoi, ou que vraiment vous ne pouviez pas attendre, je vous conseille évidemment d'attendre la VF, ce sera plus simple. Mais voilà. Ça existe et c'est cool. Par contre, je pense que la VF ne sera pas la Pocket Edition du coup. Donc voilà la première news, très bon retour. Ensuite, bah, je parlais de Luz qui arrivera chez Yellow plus tard dans l'année, donc Luz qui est un Taiki Shinzawa assez notable. Il y a aussi Enmatch qui continue, hein, je sais pas si on les voit là, ouais, on les voit là-haut, moi j'aime beaucoup Enmatch, même s'il y a plein de flow, de trucs qui me déplaisent dans Enmatch en termes de rythme, et de, mais je trouve que les univers sont trop bien, le système de card driven est vraiment cool, la gestion de main et tout, et il y a juste la question du rythme qui est un gros souci pour moi. Et donc arrivera en... Donc il y a toujours des manques, hein, dans la gamme Yellow, c'est notamment tous les personnages Marvel, qui pourtant, là aussi en termes visuels, c'est complètement zinzin. Et donc, par contre, Coup de Théâtre devra arriver en France, puisqu'il n'y a pas des questions de licence et tout. Et donc ce sera autour du théâtre, avec toujours ces visuels absolument zinzin, avec Hamlet, donc c'est il y aura Shakespeare, il y aura Hamlet, Titania et les trois sorcières de Macbeth. Donc très cool, enfin très, toujours très cool de voir cette gamme. Salut Dolmore, très cool de voir cette gamme s'enrichir toujours. C'est des coups de maître artistiques à chaque fois. Alors ça me fait marrer parce qu'il y a une réponse qui dit, ouais, est-ce que je peux trouver Adventure. Si tu regardes cette vidéo, Metzer, sache que peut-être que Cultura, effectivement, c'est compliqué pour eux encore d'avoir. Je pense qu'ils ont de Adventure d'un Cultura, ça doit dépendre des récents. Mais sinon, plutôt les boutiques spé peut-être. Voilà. Pour Adventure. Quoique, je me demande si je ne l'ai pas vu à la FNAC aussi. Donc voilà. Très cool. On verra quelles sont leurs spécificités. Donc ça arrivera à l'automne 2024. Voilà. Et la dernière news, déjà, je vous ai dit que ce serait court. Hein. On est à 10 minutes de live. C'est fou, hein. Mais, et qui j'ai vu ce matin. Nouveau jeu de Paolo Mori, accompagné par Francesco Sirocci, qui s'appellera Battalion War of the Ancients chez Osprey Games, donc qui font notamment Inflexible. Avec cette illustration que je sais pas trop si j'aime, je trouve que c'est un peu chargé en termes avec le titre, je sais pas, il y a un truc qui cloche dedans je pense, mais j'aime beaucoup les couleurs utilisées, mais je trouve que l'incursion du titre et tout, ça rend le tout un peu fouillis. Mais donc, Paolo Mori, vous savez que moi je l'aime beaucoup, que c'est l'auteur de Augustu, de Captain Flip. Ouais, je sais, ouais. Après, moi honnêtement, s'ils étaient dispo à des prix raisonnables en VO, je les prendrais sûrement Dolmore parce que... Voilà, mais même en VO, ils sont compliqués à trouver, malheureusement. Mais puis, bon, on a des priorités, hein, en termes de finances, donc voilà. Mais donc, Osprey Games, donc voilà, Paolo Mori a sorti récemment Le Match du Siècle, il a aussi sorti Captain Flip, dans un plus petit... bon, il était pas tout seul sur Captain Flip. C'est un auteur que j'aime beaucoup, que je trouve très très talentueux, il a fait Blitzkrieg, César, que j'adore. Et donc là, ils vont... Alors, il y a l'idée de faire... Donc c'est Battalion War of the Ancient, et l'idée c'est de retrouver, j'ai l'impression, des sentiments de Wargame, mais en très réduit. Alors, en vrai, il y avait un peu ça avec Blitzkrieg et tout déjà, hein, donc c'est pas non plus comme si c'était vraiment une nouveauté, mais je reste très curieux des systèmes que vont développer les auteurs. Alors Francesco Sirocci, je ne le connais pas du tout, mais ouais. Alors je sais pas si ça sortira en français, sûrement chez Nuts, j'imagine qu'il traduit souvent les Inflexibles, et donc il y a d'autres choses qui vont sortir cette année, il y a War Story Occupied Friends, je connais pas, et Inflexible mais 2200 dans le futur, ça aussi c'était assez curieux. Ah, c'est David Thompson qui travaille là-dessus et Dave Neal. Ok, bon bah ça aussi je suis curieux du coup. David Thompson c'est le mec qui fait les Inflexibles, il est pas accompagné ici de... son comparse qui est Trevor Benjamin. Et Dave Neal, c'est lui qui a fait Perspective, tiens. Et Cause, notamment, et les animaux de Baker Street. Ok, donc là, on serait plutôt dans des trucs de narration, coopératif, plutôt de l'écrit, à voir. Bon, ça, c'est pas forcément du coup ce qui m'intéresse le plus en termes de genre. Mais ouais, par contre, on va regarder. C'est quoi ? C'est ce qu'il a fait Francesco Bidule, Battalion... War of the Ancients, tac, donc c'est un truc marqué 20 à 45 minutes, pas que à deux, pour le coup, contrairement à des Blitzkrieg ou des trucs comme ça, illustré par le Roland McDonald, donc Francesco Sirocci, ah, il a fait Pocket Battles, ok, que j'ai jamais joué, mais je vois le truc, d'accord, il a fait un peu que ça, ah, il y avait ça aussi qui me tentait trop, ça avait l'air incroyable ce jeu, pas joué du tout, mais... La barricade de Parme de 1922, ça avait l'air trop cool. Révolte contre les fascistes et tout, à Parme en 1922. Je trouve le thème trop bien. là encore, ils avaient déjà collaboré et le visuel de la boîte est absolument fou, je trouve. Trop envie de jouer à ça, moi. Je sais pas où ça peut se trouver, hein, c'est juste disponible en italien, mais je trouve ça splendide, franchement. Où est-ce qu'il peut se trouver ce truc-là? C'est un jeu coop aussi. Est-ce que cette personne avait fait... Non, c'est la seule illustration que a fait Karina Maleeva. Ouais. Si vous avez des retours là-dessus, si vous avez joué à la barricade di Palma del 1922, parce que je ne parle pas l'italien, je suis très curieux de retour. Je sais pas si ça se joue en ligne ou quoi. Salut Caducé. Ah, il y a un module vassal, yes. Ok. Ok, mais je suis curieux de ça, quand même. Et donc, voilà, il a fait ça notamment. Roland McDonald a lui illustré Les Inflexibles, Final Girl aussi, Western Legends, ok. Donc lui, il a quand même pas mal de trucs derrière lui. Et il n'y a pas pour l'instant de VF annoncé. Légions romaines et leurs alliés. Donc on n'est pas dans du coop, hein, cette fois. La dynastie Han, bon, les arbalétriers, les gréco, c'est pas des bactéries, hein, bactrianes, je sais pas ce que c'est. Sûrement un peu, et les mercenaires d'Hannibal. Ok. Ah non, c'est 2 ou 4. Attention, c'est pas 2 à 4, donc c'est faux, c'est 2 ou 4 uniquement. Ok, je suis très curieux de ça. Donc voilà. J'aime beaucoup Paolo Mori de manière générale. Voilà. Voilà. Pour ce qui est des news, c'est tout. Pas beaucoup de news hein, cette semaine. On va partir sur les jeux sortis sur BGA. Oxono est sorti. Jeu abstrait, je crois que c'est le même éditeur que Yuxi. Ils font des jeux abstraits intéressants, je pense que les gens qui aiment les jeux abstraits. Mais c'est vraiment pas pour moi du tout. C'est-à-dire que autant Donuts, il y a le côté accessible et immédiat que. Moi, j'ai lancé une partie pour voir. C'est tout ce que moi, je peux pas jouer en termes de jeu abstrait. C'est ce que j'aime pas en termes de sensation. Cependant, j'ai d'ailleurs écouté Paul Gara qui en parlait il y a quelques... juste avant le live, là, dans les retours de Cannes. Elle parlait de Oxono et j'ai un peu le même problème. C'est vraiment pas pour moi. Mais pourtant, je pense que c'est des jeux abstraits assez intéressants. Yoxi aussi m'avait l'air assez intéressant. Jeu d'alignement et tout. Mais pas pour moi. Il y a Gozoic, celui-là, j'ai toujours pas joué, je suis assez curieux quand même, il est sorti l'année dernière. Voilà, donc toujours curieux. Ça, je vous en avais parlé dans un bilan, c'est assez nul comme truc and write. Faudrait que je vous le présente un jour, mais c'est vraiment pas très intéressant. Et 3000 truands qui est arrivé également, que moi j'ai remis en vente, j'ai eu des très mauvais retours dessus malheureusement, malgré le gimmick. Vous savez, c'est un truc où on peut assembler des cartes ensemble pour faire des trucs un peu spécifiques. C'est de Corey Konixka, je crois, chez Unexpected Games. Bon, a priori, ça tenait plus du gimmick qu'autre chose. Bon, on a essayé quand même, toujours curieux, mais j'aurais pas de soucis à m'en séparer. En alpha, il y a des très bons jeux qui sont arrivés, sachez-le. Voilà, mais je vous dirai pas lesquels parce qu'ils aiment pas trop qu'on communique là-dessus. Vous l'avez peut-être vu avant parce que j'étais plus bas. En bêta, donc j'ai eu pas mal de jeux qui sont sortis d'alpha. Il y a Battle Spirit Saga, que je connais pas du tout. Il y a Christ qui est un jeu d'un gars avec qui on communique parfois sur Discord qui est Shrivat si je dis pas de bêtises au niveau de la prononciation. D'ailleurs on devait faire une partie avec ma compagne là mais on l'a pas fait. C'est un jeu d'escalade à deux uniquement qui m'a pas l'air très très novateur, je sais pas. Et je sais qu'il y a il me semble Shane Ross qui a collaboré un peu au développement. Alors, j'adore Shane Ross, je trouve que c'est un très très bon auteur de jeu à deux. On est plus dans du jeu de défausse que du jeu de pli, hein, attention. C'est UFM qui l'a développé, toujours UFM au top, qui développe plein de jeux classiques de trucs de ce genre-là, de jeux de cartes. Est-ce qu'on a... Voilà, Shrivat. Pas Vat, pardon. Donc voilà. Et du coup, ouais, il faut se vider de sa main trois fois. Et voilà, il y a 12 cartes. 4 cartes qui sont retirées, parce qu'il faut retirer des cartes quand on joue à deux, ce genre de truc. C'est des combinaisons assez classiques. Des simples, des paires, des suites de cartes simples avec minimum 3 cartes. Et des suites de paires, qui est un peu plus original, qui n'est pas inédit, mais voilà. Il y a des combinaisons spéciales. Et il y a aussi la reine qui est une carte spéciale. Voilà. Et on peut suivre ou passer. Et bon. Voilà. Il y a cette petite contrainte-là, mais je vous avoue que je... Si, il y a aussi le fait qu'on prend des cartes en plus dans sa main petit à petit. Si on finit avec quelqu'un qui passe, bah, il y a une question de prendre des cartes pour un peu faire mieux. J'ai pas l'impression que ce soit aussi original que c'est Yael qui a fait Aurum qui va arriver. Bah, chez Gigamic, justement, je parlais de jeu qui allait arriver. Normalement, Aurum va arriver chez Gigamic. Qui a un Must Not Follow qui m'a l'air plus intéressant que celui-là. Celui-là, je sais pas. Stonks est arrivé aussi. Jeu de pli qui mélange. Et alors, Battle Spirit Saga, tu me demandais, Dolmore, est-ce que c'est Waytrading Card Game? Donc, un jeu effectivement un TCG. Bon courage. Ah, c'est Bandai qui fait ça. Wow. C'est des Bandai, genre de Bandai Namco? Ouais, c'est ça. Putain. Eh ben, ils ont pas peur, mais bon, c'est quand même Bandai, ils ont des moyens. Bon, moi, je vous avoue que les TCG aujourd'hui. Compliqué. Stonks, donc c'est un jeu de pli et de stock market, donc on va gérer des marchés de trucs. Bon, assez simple. C'est une bonne introduction pour les. Je vous en ai parlé il y a quelques semaines dans un hebdo. Bonne introduction pour voir le mélange des genres, c'est quand même pas très très intéressant au-delà de ça, je trouve. Mojo, c'est un jeu de défauts. Il y a quelques petits trucs qui font que c'est pas totalement nul, mais c'est quand même très anecdotique, je trouve. Quatuor, c'est un jeu abstrait, donc ça ne m'intéresse pas. Inaros Fallin. Aucune idée de ce que c'est. Le visuel est un peu intrigant et tout. Il y a quand même eu des Kickstarter preview, donc ça vient de KS. Il n'y a pas de truc de. Ah si, là, voilà. Ok, bon, voilà. Il faut avoir soit plus d'expérience, soit l'autre. Ok. Bon, soit. Bon, ça m'intéresse pas plus que ça, je vous avoue. N'hésitez pas si vous allez retourner. Mini Rogue, un jeu solo. Peut-être que je vous en ferai une partie, un de ces quatre. J'avais essayé un coup juste le début, bon, ça m'avait pas l'air foufou plus que ça, et puis j'avais eu des retours comme quoi c'était pas non plus merveilleux, c'est une espèce de dungeon crawler, voilà, c'est... Voilà, The Brambles qui est arrivé en bêta, on le fera tout à l'heure, c'est un jeu solo uniquement celui-là. Il y a Risk Force qui est un jeu à deux qui est arrivé, qui moi me rend curieux, j'ai toujours pas joué, mais avec cette ligne centrale là, c'est classique d'opposition, très curieux d'y jouer à celui-là. Cradle to Grave, j'ai joué quand il était en alpha. Petit jeu de cartes pas très passionnant, on va pas se mentir. Malheureusement, j'ai été un peu déçu parce que le thème est cool, mais je trouve que c'est pas très très intéressant. Mais je crois que le reste, on avait déjà vu la semaine dernière, Gobelins des Bois, etc., me semble-t-il. Donc voilà, bon. Si vous aimez les jeux abstraits, jetez un oeil là-dessus, jeux abstraits uniquement à deux. Chez Proxy Jeux maintenant, pour finir. Proxy Jeux, donc, le podcast auquel je participe régulièrement. Enfin, régulièrement, oui. Presque toutes les semaines. Il y a eu un seul épisode depuis, hein, puisqu'on tient le rythme hebdo. C'est les jeux du mois où Astien a parlé de Veil of Eternity et Pionf de Kaori. Alors Veil of Eternity, moi je vous en ai déjà parlé, je trouve pas que c'est incroyable. Ouais, Dolmore, c'est vrai que ça faisait très longtemps qu'il était en alpha Rift Force. Et c'est toujours plus facile de trouver des gens quand le jeu est en bêta. Moi, je trouve que c'est un jeu, je l'ai encore fait découvrir à Nico cette semaine. C'est pas inintéressant. Il y a plein de petits trucs qui marchent. Je trouve les visuels assez laids. Enfin, pas laids, c'est pas laid, je veux dire, c'est bien dessiné. Mais assez peu, avec assez peu d'identité. Il y a quelques trucs de game design que j'aime bien, mais je le trouve quand même assez oubliable. Ce que dit d'ailleurs Astien, c'est un jeu du mois, mais il n'en fait pas non plus un jeu qui va rester dans les mémoires. Et Kaori, pour le coup, j'avais des réserves, hein, aller voir les anciennes vidéos sur la thématisation et tout, notamment du personnage de la Maori. Et puis on fait ça, on m'a donné très très envie d'essayer, pour le coup, très très curieux d'essayer ça, ce jeu asymétrique, à 3 ou 4, a priori, n'y jouez pas à 2 et même. Alors lui, il conseille plutôt d'y jouer à 4, je sais qu'il y a des gens qui disent plutôt à 3, bon, donc je suis curieux d'essayer dans ces deux configs, avec vraiment une personnalité selon qui tu joues, mais en même temps une relative épure en termes de règles qui fait que c'est pas du tout un route, et par contre qui raconte beaucoup de choses et tout, donc je suis très très curieux de quand même essayer ça, il en a dit, il a fait une bonne critique. Voilà, donc très curieux de Kaori pour le coup. Et voilà, on a fini les news. Et je vous propose que, sans plus attendre, on passe du coup aux parties de la semaine passée. Alors, Donc je joue toujours, je vous passe un peu sur ce jeu que j'ai beaucoup parlé. Hein. Potato Man, dont je joue toujours beaucoup. Enfin, je joue toujours beaucoup sur mon appli. Tel qu'il disait aussi, Boston Nothing, j'y joue énormément ces derniers temps, je suis beaucoup revenu dessus. Unboxed, on continue aussi les parties avec Pauline. Du coup, j'ai toujours les mêmes réserves dessus, c'est plus intéressant que bon, je dirais. On a rejoué à Kate, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué, on a gagné, c'est toujours aussi cool, je vous parlerai de Quicksand plus tard. Off What's Left, on a fait deux parties, alors en fait on a fait une longue partie, mais normalement c'est en trois mains. C'est un jeu qui va être réimplémenté cet été chez Béziers, donc c'est un jeu de Taylor Reiner, qui est la personne qui fait Taylor's Trick-Taking Table. Et c'est réimplémenté, alors normalement c'était de 3 à 4 avec un jeu de cartes standard. Enfin, jouable avec un jeu de cartes standard, et ça va être repris par Béziers sous le nom Sears Catalogue, qui est en fait une blague sur les. Alors, je pense qu'en France, on n'a pas du tout la ref, mais qui va passer du coup de 2 à 5. Taylor en a fait une vidéo, alors forcément, c'est son jeu, donc voilà. Je vous avoue qu'il parle. Enfin, il dit qu'il aime bien les visuels et tout, mais. Moi, je vous avoue, il y a beaucoup plus aussi de cartes à pouvoir. Moi, je vous avoue que, enfin, la comparaison entre les visuels de Saïbépou et les visuels, alors certes, un peu qui ont leur charme, mais enfin, je veux dire, waouh, quoi, enfin, ça n'a rien à voir en termes pour moi de charme. Je trouve, j'espère que Off What's Left sera disponible parce que celui-là va être disponible plus facilement parce que c'est Béziers Games, c'est cool pour Taylor. Mais franchement, en termes de visuel, c'est le jour et la nuit. Et si je devais en avoir un, moi, je prends 1000 fois le jeu illustré par Saïbépou. Alors pour l'instant, c'est compliqué à se procurer, j'arrive pas à l'avoir. Mais ouais, c'est. Enfin, je trouve ça trop dommage que plutôt. Pourquoi pas faire des ajustements et tout? Et alors, je sais que c'est parce que ça rentre. Et en plus, là, vous avez vu le gros truc Béziers Games et tout. C'est pas très élégant, quoi. C'est aussi peut-être pour rentrer un peu dans une espèce d'univers partagé de Béziers Games. Mais franchement, enfin, c'est trop dommage. Et j'ai joué, du coup, on a fait, et c'est vraiment bien, hein, jeu de défausse très très bien. Alors, c'est un jeu de, il le présente comme un almost shedding, donc un jeu de presque défausse, parce que c'est un jeu d'escalade assez classique, pas très compliqué, où on peut passer, où on peut revenir quand on a passé, où il faut suivre les combinaisons en termes de nombre de cartes et tout, ça c'est très très simple. Donc on peut y jouer avec un jeu de cartes standard. Hein. Vous rajoutez juste deux jokers que vous tenez à l'envers, qui sont des cartes spéciales, qui sont des jokers. Vous voyez que les combinaisons, c'est cartes simples, cartes de même valeur ou suite de même couleur. Il faut suivre avec le même nombre de cartes. Vraiment tout simple. Le truc qui fait vraiment que c'est très bien, c'est. Bah, la présence des jokers, mais ça, à la limite, bon, c'est pas. C'est plus, effectivement, l'idée du scoring. Puisque la manche s'arrête dès que quelqu'un a défaussé sa main, cette personne fera 0 points. Le but, c'est d'avoir le moins de points possible. Non, le plus de points. Parce que les autres, ils perdent un point par carte. Donc, voilà. Mais, si tu arrives à avoir moins de cartes, tu vas retourner une petite carte qui te dit, bah, à partir de là, t'as un bonus. Et si tu as donc moins de 5 cartes à la fin de la partie, tu marques les points de ta plus petite carte. Donc si j'ai 3 cartes, je perds 3 points, mais si ma plus petite carte c'est un 7, ben en fait j'ai marqué 4 points. Et c'est vachement intéressant en termes de dynamique et en termes de choix, puisqu'on va essayer de garder des grosses cartes. On n'a pas envie de finir, mais en même temps, des fois, finir si les autres ont beaucoup de cartes en main, c'est bien. Parce que toi tu fais 0, les autres font faire du négatif. Et ils n'ont pas le bonus. Mais en plus, quand tu arrive au bonus, tu n'as plus le droit de passer volontairement. C'est-à-dire que si tu peux jouer, tu dois jouer, ce qui va amener forcément au fait de se défausser entièrement. C'est des petits trucs très très malins. Franchement, je trouve ça assez brillant. En termes de dynamique de jeu et d'espace de choix que ça fait, c'est très très bien. Et également, alors on a joué avec le score de base. C'est-à-dire, c'est une main par personne. Alors c'est peut-être un peu short. À 3, on a joué. Du coup, en fait, on a fait deux fois le tour. Je pense que honnêtement, ça c'est pas plus mal de faire comme ça. Mais il y a un autre système de scoring qui, je crois, n'a pas été repris dans Sears Catalog, alors que je trouve qu'en termes de game design, c'est assez brillant. C'est Jonathan Cox de John Gates Games qui l'a développé, qui lui a proposé, Taylor l'a inclus. Il y a une, en fait, une. Voilà. On commence à 25 points, donc c'est la première personne qui atteint. On joue jusqu'à ce que quelqu'un atteigne 25 points. Et en fait, quand ils ont commencé à se dire ça, ils se sont dit, ben en fait, ça marchera pas parce que comme des fois on peut perdre des points et tout, la partie peut être complètement infinie. Ce qui est très intéressant, Et je trouve qu'en termes de game design, franchement, inspirez-vous de ça. Je trouve ça trop bien. C'est que si quelqu'un fait du négatif dans la manche, on descend le seuil. Donc on passe de 25 à 20, puis à 15, etc. Ce qui fait qu'en fait, on avance forcément vers la fin de la partie. Et je trouve ça trop malin comme façon de jouer. Je pense que je privilégierais ça parce qu'effectivement, les trois mains seulement sont un peu courtes. Mais je trouve ça super brillant en termes de game design, quoi. Donc voilà, franchement, très très bonne surprise. J'ai hâte d'y rejouer. Ça se joue avec un jeu de cartes classique. N'hésitez pas à le découvrir, franchement. Stonks, on a rejoué. Du coup, je leur ai fait découvrir. Bon, ils ont eu le même retour que moi. Hein, c'est bon, sans plus. Voilà. Pas inintéressant, mais bon. J'ai joué à ça, qui est. Parce que la semaine dernière, je vous avais reparlé que j'avais rejoué au Royaume Sauvage. J'ai trouvé assez moyen à 5. Il y a 1 et à 2 aussi. Donc, c'est peut-être essayer à 3 et 4, mais je l'ai mis sur Ocaseo. Hein, parce que bon. Voilà, je suis pas sûr du tout que ça change le truc. Et il y a en fait une version Roll and Write que j'ai essayé sur TTS en solo. Bon, ça change rien en solo ou à plus. Qui est pas très intéressant. Je vous ferai peut-être une partie, un de ces quatre. C'est vraiment tout con. Où il y a des petits contrats, où tu essaies de marquer des points, où tu vas prendre certains dés là, et puis tu vas aussi en mettre là sur les royaumes, mais où tu vas marquer des points si tu remplis des. Franchement, du déjà vu. Je pense que je préfère quand même le jeu de base, qui n'a pas grand chose à voir, mais je trouve ça assez peu intéressant personnellement. C'est Carla Kopp qui l'a fait, qui avait fait aussi des jeux que je ne connais pas. Donc j'ai trouvé ça assez moyen, honnêtement. Pas très envie d'y revenir, j'y reviendrai peut-être. Mais après, je suis allé chez Jiren pour la soirée slash nuit et le lendemain, je leur ai fait découvrir avec Cécile. Marvel United, dont je vous ai déjà parlé, je vous ai déjà fait une partie sur cette chaîne, et on a joué à 3. C'est la première fois que je joue à 3, et ouais, vraiment, j'en parle dans un T'as joué à quoi qui devrait sortir lundi prochain. Il faut que je fasse le montage, mais ça devrait sortir lundi prochain. Et je sais pas, il y a toujours quelque chose qui me plaît dedans. Alors, il y a toujours un peu une forme d'injustice, il y a aussi une forme de tension qui reste, qui est cool, mais je trouve ça toujours un peu, ouais, sans. Enfin, il y a un scope qui est très bien maîtrisé. Il y a un thème qui marche bien, quand bien même le visuel chibi m'attirait pas plus que ça. Je sais pas, il y a quelque chose qui fonctionne dedans, quand bien même je vois un peu toutes les ficelles et tous les petits défauts qu'il y a. Et du coup, on a fait quand même 3 parties, parce que bah, Jérémy est un grand fan de Marvel aussi. Donc ça marche bien chez lui, le thème et tout. Et on a fait en fait jusqu'à gagner contre Red Skull. Il y avait un peu cette frustration quand on a rejoué tous les deux plus tard dans la nuit de pas réussir. Donc on a refait une 3e partie pour gagner quand même, parce que. Sinon, ça allait pas. J'ai rejoué à 7 et match. J'en ai fait 2 parties cette semaine. C'est toujours un jeu de pichenette très brillant. J'en ai parlé dans un T'as joué à quoi chez Proxy Jeux. Allez, écoutez ça si vous voulez les détails, mais c'est assez brillant. Toujours autant de plaisir. Jerem me met toujours la masse. Hein. Il est trop fort. Enfin, ou je suis trop nul. Au choix. Nirvana, je l'ai fait découvrir. Pareil, je vais pas m'étendre dessus, mais très bon jeu. Et ça, par contre, très cool. J'avais joué à 2. Je vous avais dit que j'avais pas trouvé ça foufou à 2. J'avais pas eu l'occasion d'y rejouer, mais en fait, à 2, ce qui est pas très intéressant, c'est que si tu passes, ben, l'autre on défausse et l'autre lance. C'est Chobu qui m'avait dit qu'il avait adapté quelques trucs pour jouer à 2, notamment en retirant des couleurs. J'ai pas encore essayé, mais par contre, du coup, on a joué à 4 avec Gaume, qui était. Qu'on salue. Salut Gaume. Qui était de passage aussi chez Jerem. Et on a pu jouer à 4, et donc je suis content parce que je voulais vraiment réessayer. Et écoutez, vraiment, pour le coup, ouais, c'est cool à 4. Très bonne surprise. Je pensais pas que ce serait aussi bien. Je pensais que ce serait mieux. Mais je pensais pas que ce serait aussi bien. Parce que du coup, en fait, tout ce qui marche pas à 2 fonctionne plutôt à 4. Peut-être à 3 aussi. Peut-être à 6 aussi. Ça, je sais pas. Mais il y a ce côté-là, de reprendre les cartes. Il y a vraiment des petits choix ici et là qui font que. Est-ce que j'ai envie de jouer vraiment? Parce qu'en fait, à 2, la question se pose moins, parce que si tu joues pas l'autre, ça lui fait une grosse couverture, puisqu'il va pouvoir relancer. Alors que là, ne pas jouer, ça évite de prendre une carte qui va te pourrir ta main, parce que l'idée, c'est donc un jeu de défausse et d'escalade, où quand on joue des cartes, on en récupère une. Alors si j'en joue qu'une, bah, j'en récupère une, donc je me suis défaussé de rien en termes de nombre, mais peut-être que celle que j'ai récupérée est plus intéressante pour faire certaines combinaisons. À partir du moment où j'en joue plusieurs, et où j'en récupère, ben je perds des cartes forcément, et c'est le but, puisque le but c'est de faire le moins de points possible. Je crois à la fin on perd un point par carte qui nous reste. Mais des fois on n'a pas envie de se défausser parce qu'en fait on n'a pas envie de casser une combinaison ou quoi, et en même temps en plus les cartes qui sont au milieu de la table nous intéressent pas. Et à deux, cette dynamique-là marche pas, je trouve. Là où, ben, à trois peut-être, mais en tout cas à quatre, c'est sûr, bah ça marche, parce que du coup, on peut passer volontairement, et en même temps, on n'a pas l'impression de faire trop d'ouverture, parce que derrière, les autres vont jouer, et peut-être même que ça va revenir à nous, et qu'on va pouvoir faire une meilleure combinaison. Donc j'ai trouvé ça vraiment bien. Très cool d'avoir pu expérimenter ça à 4. Je suis content parce que c'est vraiment pas. Et également à 2, je trouvais la limite de 15 points vraiment trop longue. Ça, il faut adapter, hein, mais à 2, 15 points, c'est interminable parce qu'on marque trop peu de points. Enfin, il reste trop peu de cartes en main. Là où, ben, en fait, à 4, il y a des parties où, ben, pouf, tu fais 8 points. Et 8 points, c'est la moitié de la partie. Et du coup, ouais, vraiment très cool. Très très cool. On a joué à Captain Flip chez. Alors ça, on en fera un jeu du mois chez Proxy Jeux. C'est pas moi qui en parlerai en principal, mais je serai dans l'émission, on en parlera. Et il y a un élément d'édition qui a été relevé par Aurélien sur le Discord du passe-temps, qui peut tuer le jeu. Tuer en tout cas votre expérience de jeu. Ça ne change pas que le jeu est très bien en termes de game design, mais il y a un souci d'édition qui, j'espère, sera corrigé dans les retirages. Aurélien a eu la bonne idée, entre guillemets, de ne pas le mettre publiquement dans le Discord du passe-temps, parce que effectivement, ça peut te ruiner tes parties, alors que si tu ne le sais pas, bah tu le sais pas. Du coup, moi, je suis allé le voir en MP, parce que j'étais curieux. Et du coup, bon, je vais pas vous en parler ici, si vous voulez vraiment le savoir, si vous êtes trop curieux ou curieuse, vous venez me voir en MP sur Discord. Pour le coup, ça peut vraiment casser le jeu. J'espère vraiment que ce sera corrigé parce que c'est forcément une erreur. Et on en parlera peut-être dans le jeu du mois, mais pareil avec tous les warnings qui vont bien et tout en disant attention. D'ailleurs, je le ferai que si Ben veut l'entendre, parce que si c'est Ben qui s'en occupera et s'il veut pas l'entendre, ben je lui dirai pas, je le mettrai en post-prod parce que ça me paraît quand même assez important comme erreur d'édition pour le relever. Mais on fera les warnings qui vont bien et tout. Je sais que ça. Bon, alors, quand Aurélien en a parlé, moi, j'étais sûrement aussi curieux que vous l'êtes maintenant. Voilà. Du coup, je leur ai fait découvrir ça. En fait, je l'ai offert à Jérém, parce que moi, c'est un jeu que j'adore. Et oui, je sais, hein, c'est des trucs où on dit, je peux pas vous en parler, mais où, du coup, tout le monde a envie de savoir. Du coup, c'est Hoildor Mao Mao, et moi, je l'ai sous Disney Villains, qui est une version que j'aime moins, que ce soit en termes de dynamique ou de thème, mais c'est celui qui est disponible le plus facilement, et donc je l'ai offert à Jérém, parce que c'est vraiment un jeu 8 américains like, que je trouve trop bien, avec cette interaction sur les personnes, le côté mémoire et tout, et le côté chouinage. On a joué aussi avec les pouvoirs, c'était bien, et d'ailleurs, on a joué une version avec la variante Eldor, où du coup, on a mélangé les decks et on les a mis au milieu. Parce que dans Hoildor Mao Mao, en fait, on n'a pas chacun ou chacune son deck, c'est un deck au milieu de la table, ce qui fait que c'est des dynamiques assez différentes. Et c'est toujours aussi brillant, franchement, Colovini est trop fort et je pense pas que c'est un grand succès, et pourtant il le mérite parce qu'il y a ce côté jeu de cartes où tu tapes le carton, où tu chouines et tout, que je trouve très bien. Salut Zoyberg, ça roule. Et toi? J'espère que tu vas bien aussi. Ils m'ont fait découvrir Riprip, je l'ai dans ma ludothèque depuis la sortie. Vous verrez que j'ai lu la BD juste avant, en fait. On parlera de la BD tout à l'heure. Et donc, je l'ai depuis longtemps dans ma ludothèque, mais je l'avais pas sorti. Là, on a joué à 3. Écoutez, jeu de guessing, jeu où tu vas essayer de récupérer des trucs, jeu où j'ai très mal joué. On le voit à mon score, hein, misérable. J'ai fait des grosses bêtises. Avec quelques éléments de choix, je suis d'accord, Zoidberg, sympa sans plus. C'est-à-dire que, bon, voilà, tu vas faire. Il y a un peu de bluff, il y a un peu de prise d'infos. C'est du guessing qui se repose quand même sur des choses, contrairement à un Stop Mirror Let Me Go, que j'aime bien pour le coup, mais qui se repose sur rien en termes de guessing. Là, il y a quand même un peu de guessing et de bluff qui se repose sur des informations. Après, bon, voilà, j'ai pas trouvé ça merveilleux non plus. Donc voilà, pourquoi pas. Mais j'y rejouerai sûrement, il faudrait que je revoie. Ouais. Tu as pas vu passer l'info, c'est. Ouais, je pense. Bah, je pense que c'est le. Ah, je sais pas. Je pense que c'était l'administrateur. Ouais, c'est moyen quoi. Je pense que les jeux au plan ont fait quand même des choses beaucoup mieux. Unmatched, ouais, c'est Hamlet, Shakespeare, Titania et les trois sœurs de Macbeth. C'est ça? Qui sont jouables. Et c'est stylé. Maudite momie, on a rejoué, toujours. Alors, vous avez vu mes scores. 6 points, misérable. Misérable, Flavien. J'ai trop accusé pour rien. Toujours un stop ou encore super bien, que j'adore. Qui est un de mes préférés dans le genre. Je le trouve super efficace, quand bien même je suis à moyennement client des Illus. Je trouve que la dynamique est très bien. Gaume voulait depuis longtemps découvrir Cartagena. Écoutez, il a découvert, il a pris sa tôle. Hein. Et Jérém, il nous a ruinés. Toujours aussi bien. À partir de 3, c'est notamment mieux qu'à 2. Même si je le préfère à 4-5. Mais ouais, Jérém, il nous a fait des moves de bâtard assez violents. Après, du coup, Gaume est parti après avoir découvert Cartagena. Et on a fait donc les deux Marvel United où enfin on a réussi à battre Crâne Rouge, le fameux. Voilà, on avance. Et j'ai rejoint au match du siècle. Bon, je peux m'attarder dessus parce que je vous en ai parlé le mois dernier. J'ai refait deux parties cette semaine. Je vous en ai parlé pas le mois dernier, la semaine dernière. C'est toujours aussi bien les parties que je fais, toujours aussi tendues, toujours aussi pleines de tensions qui finissent peut-être un poil trop équilibrées pour que ça finisse à chaque fois à pas grand-chose. Mais le système est super. Donc un peu d'asymétrie à mon goût quand même peut-être, mais très curieux quand même d'y rejouer encore et encore. Très très bien. Allez voir mon avis de la semaine dernière. Je l'ai joué avec Jérém à Banana, je lui ai fait découvrir ça aussi. C'est très très bien. On a fait une égalité que j'ai gagnée. Trop cool. Vraiment cool. Vraiment ça. Je sais pas si c'est supposé arriver en France ou pas, mais il faudrait parce que c'est vraiment dans le genre jeu de cartes avec enjeux simples et trucs rapides et règles simples, mais vraiment de la tension et tout. Je trouve ça super et même des dynamiques de jeu intéressantes et qui diffèrent de partie en partie. On a fait deux parties du UK, c'est peut-être parce que Jérém était ravi, il a reçu son UK, c'est peut-être qu'il a commandé sur Travel Games. Alors lui, il a la version non foil, la version coréenne, je crois. Mais bon, c'est le même jeu, et bon, il a juste pas les règles en anglais. Mais bon, elles se trouvent facilement. On a joué à deux, j'étais très content d'y rejouer en physique. C'est la première fois que j'y joue à deux en physique, je crois, et franchement, le mode de Shunross est trop bien. Il a gagné les deux parties, mais en fait, ce qui est trop cool dans UK, c'est peut-être, c'est que les. Il a fait 7-0 et 10-0, mais en fait ça reflète pas la tension qu'il y a dans la partie où chaque manche ça se joue à pas grand chose, et c'est ça qui est l'essentiel en fait. C'est pas que bah, à la fin il gagne 7-0 ou 10-0, il y a des moments où ça se dit bon bah du coup je me suis fait latter, bah typiquement ouais, là-dedans dans ces deux trucs, bon il n'y avait pas tellement de tension pour moi, alors que là chacune des manches était très tendue et c'est vraiment très brillant. Je lui ai fait découvrir Surfosaurus Max qu'il a gagné, j'ai rien gagné, punaise, incroyable, si Bananaing, mais sur une égalité. C'est fou. Surfosaurus Max, toujours aussi cool, toujours un thème aussi barré, j'adore le faire découvrir. Et en plus, le jeu est pas si mal, je vous en ai parlé la dernière fois. Les mines, je vous en ai aussi parlé il y a pas longtemps, donc on s'attarde pas dessus, mais là j'ai pu y jouer en physique. J'ai fait deux parties cette semaine, alors à deux toujours. Je continue de penser que c'est sans doute mieux à 4, 5. Salut, bière pour Dieu. Reste que c'est un très bon jeu de course, un peu concon, qui manque un peu peut-être de thématisation, mais. Mais j'aime beaucoup son système et les petits choix qu'il y a à faire, la manière dont on peut s'emmerder, dont on peut se pousser et tout. Celui-là, il est marqué comme New. Alors j'avais essayé, je crois, il y a un certain temps. C'est vraiment un jeu où il y a la mécanique, on l'a retrouvé plus tard dans Sobek, la mécanique de prise dans la ligne ou la colonne où on impose, je crois. Enfin, ouais, enfin, pas spécialement Sobek de joie. Mais en gros, quand on va prendre une carte, ça va indiquer la colonne ou la ligne où on va pouvoir se déplacer, et on va se déplacer jusqu'à un membre d'une famille et récupérer tous les membres de cette famille-là sur le chemin. Et après, c'est un but de jeu de majorité, assez classique, avec quand même des petits trucs, des petits pouvoirs quand on prend le dernier membre de la famille, quand bien même on n'est pas majoritaire, ça c'est cool qu'il y ait ces petits pouvoirs-là. Ça reste très abstrait. Enfin, on n'a pas du tout. Enfin, tout est visible et tout, donc il n'y a pas du tout d'aléatoire dedans. C'est un jeu à deux, de 2 à 4. Alors, on y a joué à 2 et honnêtement, je pense que c'est vraiment il y a de la meilleure des configs enfin pour ce genre de jeu-là. Peut-être qu'à 4, ça rajoute un peu de chaos qui est pas inintéressant, mais ouais, bon, écoutez, sans plus. Pas trop mon genre de truc, un peu trop abstrait pour moi, mais le système est assez épuré et justement, il s'encombre pas de trop d'autres trucs. C'est vraiment, on récupère des trucs pour faire de la majorité avec quelques petits pouvoirs. Ensuite, on a fait une soirée crêpe. Et on a joué à deux jeux de 10 sur 10. Deux bangers. Just one. Toujours aussi bien à l'apéro où t'es là et tu peux jouer. C'est expliqué en un instant. Les sensations sont toujours incroyables. L'édition sert toujours le jeu. Il y a toujours des moments fous. On a fait combien? On a fait 9. On n'a pas fait le meilleur score du monde. Mais incroyable le jeu, évidemment. Et l'autre. Que ça faisait très longtemps que j'avais pas joué, je pense 2 ans, pas loin, c'est Decrypto, qui est toujours Toujours aussi. En fait, ce qui est drôle, c'est que c'est toujours aussi chiant à expliquer. Hein? Ça faisait longtemps que vous n'avez pas expliqué, c'est toujours aussi relou. Et à chaque fois, je lui dis, bon, écoutez, désolé, c'est relou à expliquer, mais vous comprendrez tout dès qu'on joue. Mais qui est toujours. En fait, le gap entre le moment où tu expliques, où les gens ils sont là, ok, soit, et la deuxième manche. Ouais, nous, on a beaucoup joué aussi avec des grands-parents et tout, et ça marche super bien. Et donc, le gap entre vraiment le moment où tu vas découvrir la première manche et où tu te dis, bon, ok, soit, et la deuxième manche, tu commences à comprendre les subtilités et tu te dis, ah, mais attends, si je fais ça, ça lui donne des indices et tout, c'est trop plaisant, quoi. Enfin, il y a. C'est tellement riche et la richesse apparaît si facilement dès la deuxième manche que tu es là et tu dis, ah, c'est comme ça. Ah, et du coup, tu vois l'étincelle s'allumer. Et c'est trop cool. Vraiment, j'y avais pas joué depuis longtemps et toujours aussi brillant. Il a fait, je crois, Circle. Ah oui, il y a ça qui doit sortir de lui. Ailette. Non, Circle, c'est l'auteur de The Crew. Ça m'a l'air beaucoup moins intéressant, on va pas se mentir. Et ça aussi. Mais des cryptos, toujours dans mon cœur. Incroyable. Pour moi, c'est vraiment. Je pense que c'est mon jeu préféré. Honnêtement, que ce soit dans le genre où. Enfin, il y a aussi Root et tout, mais celui-là, ouais, il y a un truc qui est fou, quoi. Dans la manière d'utiliser aussi les carnets et tout, c'est. Trop cool. Trop cool. On a rejoué à Sylvan Gold Pyramid, je vous en ai déjà parlé pas mal de fois, donc je vais pas revenir dessus. Très très bien, toujours. Hein. Captain Flip, Magic Trick, ça faisait très longtemps que j'avais pas rejoué, toujours aussi brillant. Pareil, alors je vous en ai parlé, mais Bézier Games, je vais le reprendre sous Xylotar, qui a un thème complètement barré, très rigolo, mais qui rajoute des trucs, j'aime pas les cartes. Y a plein de. Je trouve les choix d'édition de Bézier Games assez discutables en termes visuels et tout. Mais celui-là, ouais, je le trouve très bien. Même si moi, tu vois, j'aurais été éditeur, j'aurais ch changé des trucs en termes de matériel ou des trucs comme ça pour faciliter certains éléments de déduction. Quand on joue en physique, on utilise certains trucs. Mais j'aurais pas changé le thème, quoi. J'aurais pas. Ouais, je sais pas. Et notamment aussi le scoring qui va changer alors que le scoring est super dans Magic Trick, bref. Là, c'est les découvertes que j'ai fait à Nico, donc je vous ai dit, hein, Veil of Eternity. Qu'il a gagné sans trop de difficultés, hein. On pourrait croire que c'est un peu, ça devait être au 8e ou 9e tour, que c'était un peu serré. En vrai, sa victoire était assez claire 2 tours avant la fin. Mandala, que moi j'aime beaucoup, même si je me suis fait latter, mais lui il a pas accroché plus que ça. Je vous ai déjà parlé pas mal de fois, mais je trouve ça brillant. C'est un jeu de Brett Gilbert et Trevor Benjamin, si je dis pas de bêtises, ouais, que je trouve vraiment assez cool en termes de tension et tout, en termes d'ouverture faite aux autres. Je trouve que c'est très bien. Je lui ai fait découvrir Vidrasso, je vous ai parlé de Sean Ross, ben c'est lui qui a fait ça. Un jeu de pli à deux brillant. Je vous en ai parlé dans une vidéo de découverte il y a courant de l'année dernière. Et vraiment très très bon jeu à deux, que ce soit en termes d'enjeu, en termes d'utilisation des atouts, des super atouts, des hommes de paille, là, les Strowman. C'est très très bien, j'aime beaucoup. On a joué à Quicksand, je vous ai dit que j'en parlerai rapidement. On a fait quelques parties. Alors, on a fait le niveau 1 et le niveau 2 qu'on a gagné. La première partie, on a perdu. Alors, c'est souvent présenté, effectivement, bon, il y a vraiment du Kites là-dedans. Alors, je pense pas que ça a été influencé directement par Kites parce que c'est pas les mêmes auteurs. Voilà, c'est un auteur de photosynthèse, c'est le dilemme du roi. Difficile quand même de. Je sais pas en fait à quel moment ça a discuté et tout. Parce qu'il y a vraiment ce côté où on retrouve vraiment beaucoup de kites, mais avec un parcours. Là où kites, assez épure de juste tu joues une carte, tu retournes les sabliers de la couleur de cette carte, et juste faut éviter que les sabliers soient retournés, se vident. Là, ça rajoute un peu des éléments avec ben il faut avancer, il faut arriver à tel endroit, si ça se retourne, tu les mets à côté. Je trouve que c'est typiquement. C'est pas mal, hein, mais je préfère l'épure de Kites, quoi. Je trouve pas que ça apporte assez de choses différentes pour que ça vaille le coup d'être préféré à Kites. Il y a des jeux qui apportent de la profondeur et des éléments qui vont rajouter des subtilités, des strates intéressantes. Et si je trouve que les strates que ça ajoute. Bon, les dynamiques sont pas exactement les mêmes quand même, hein, mais je n'ai pas trouvé. Après, il faudra voir. On fera quand même la suite des niveaux, mais. Alors on a joué à 2 à Whale to Look. qui est celui-là, là, avec cette chouette petite pochette. Alors, clairement, je pense que c'est mieux à plus, hein. Ça fait penser à RIP, clairement, un petit peu dans le côté jeu de guessing où tu vas pouvoir prendre des infos et où tu vas essayer de perdre un peu les autres et de scorer de manière assez simple. Donc, cette feuille d'outils qui avait collaboré avec John Sasaki chez On Games, il en a un peu parlé chez Paul Gara dans les jeux qui l'ont influencé. Il parlait de je sais plus quel jeu, et donc il disait que ça avait un peu qu'on pouvait un peu retrouver ce côté-là dans Well to Look, vite fait. C'est vraiment un jeu tout bête où t'as un, deux ou trois touristes sur ton bateau. C'est en deux manches, il va y avoir une carte météo qui va changer quelques règles dans la manche 2. Et en gros, tu vas essayer de te placer là où il y aura le plus de poissons ou là où il y aura le moins de poissons, pour marquer plus de points, pour marquer des points, quoi. Et si tu mets ton bateau à 3, ben c'est 3 points. Voilà, sauf modificateur éventuel. C'est mignon, le thème est sympa, c'est pas de la chasse aux baleines, c'est de la prise de photos. Si je devais choisir entre celui-là et RIP, je pense que je préfère celui-là quand même en termes de dynamique et de éléments de choix et d'action à faire pour prendre des infos. Voilà. Et en plus, je le trouve plus simple que RIP, tout en procurant un peu les mêmes sensations. Mais bon, ouais, avoir à 3 ou 4. Et jusqu'à combien? Jusqu'à 5? Parce que à 2, clairement, bon, voilà, c'est pas le plus intéressant. Mais voilà. Mais pas mal. Est-ce que j'ai d'autres choses? J'ai rejoint un peu au Schnapsen, ça faisait longtemps aussi. Je crois qu'on a fait le tour, déjà. Incroyable. Est-ce que... Par exemple, si, est-ce que j'ai pas des trucs que j'ai joués ce matin et qui seraient nouveaux? Non, ce matin j'ai pas joué à grand chose de neuf, j'ai juste fait. Salut Siro! J'ai juste fait du Captain Flip si je dis pas de bêtises, yes. Ah si, ah bah voilà. J'ai joué à Nymadia, j'avais fait un début de partie en physique. Ouais, bah écoute, tu parles de quoi? Whale to Look, Caducée? Je sais pas si aléatoire est le terme. Je pense qu'à plus tu peux prendre un peu d'infos selon le bluff, après ça dépend vraiment de comment les gens bluffent et font du guessing. C'est pas. Enfin, pour moi, la prise qu'il y a sur le jeu, ça va, ça me gêne pas. Mais bon, c'est juste que les sentiments sont un peu convenus. Donc, Nymadia, j'avais fait un début de partie, on n'avait pas accroché, c'est ce scoring à la Cartographers. J'ai pu essayer là sur BGA. Alors, c'est en alpha, je crois, sur BGA, et franchement, la version est pas très agréable à manipuler. Il y a du travail à faire. Alors j'en avais pas un bon souvenir de mon début de partie, on avait arrêté parce que Pony n'avait pas aimé du tout. Je vous avoue que j'ai trouvé ça vraiment nul, quoi. Enfin, c'est chiant. Enfin, je sais pas, c'est pas intéressant, les systèmes de scoring sont pas très intéressants, et puis, ok, il y a des histoires de différents termes à gérer, mais c'est très puzzly, ça fait mal à la tête, très calculatoire. Il y a un peu de draft, donc voilà, il y a un peu d'interaction et tout, mais c'est quand même assez nul, quoi. Enfin, mais je pense pas que c'est les objectifs qu'on avait qui. Franchement, ouais, je trouve ça vraiment pas réussi. Faudrait que je réessaye, je l'ai toujours en physique parce que je voulais toujours lui donner une chance. Je trouve ça quand même assez naze. Après, honnêtement, l'adaptation BGA aide pas, hein. Vraiment pas, quoi. Elle est vraiment pas bien pour l'instant. Si vous voulez essayer, essayez pas sur BGA, je pense. J'ai rejoué à Rumble Nation à 4. Sur TTS, et vraiment, enfin, j'avais déjà joué à deux, et vraiment, c'est le jour et la nuit. Ouais, mais moi, c'est trop casse-tête pour moi, tu vois. Moi, tous les trucs un peu trop calculatoires où t'es là et tu te dis, ah, attends, mais là, ça va me rapporter combien? Alors, si je le mets là, si je le mets là, si je le mets là, ça me retire tant de points, je déteste ça. En plus que je trouve pas que ce soit original, quoi. La pause méridionale ou la pause méridienne? Parce que c'est pas la même chose. La pause méridienne, c'est. Allez, on suit un petit jeu à midi, la pause méridionale, c'est. Ah, qu'est-ce qu'on va prendre avec notre petit pastis en jouant à la pétanque. Ouais, Rumble Nation, c'est incroyable. Hein. Je l'avais découvert bah, suite à la présentation du passe-temps et aux promos. Il y avait un pote de jeu qui l'avait pris et vraiment très brillant. Non, mais moi je pense qu'on peut dire la pause méridionale. Tu te fais une petite pause méridionale. Je pense qu'il faut instituer ça. Bon, j'ai joué à 2, et à 2, c'est vraiment pas bien. Enfin, c'est pas que c'est pas bien, c'est que bah, tous les enjeux de majorité et de trucs pourrissage marchent pas vraiment. Ça fonctionnouille. Parce que le système est vraiment brillant et les enjeux de choix quand tu lances les dés sont bien. Mais c'est vraiment à partir de 3 qu'il prend son envol parce que et qu'il devient vraiment super parce que ben, tout le blabla autour de la table, les systèmes de vengeance qui se mettent en place, les. Enfin, voilà, et puis les systèmes de majorité sont plus intéressants qu'à deux, évidemment. Mais c'est brillant de. C'est pour moi un des meilleurs jeux. Bah là, j'ai écrit, comme dit la vidéo des découvertes de janvier, il est clairement dans les tops, et pour moi, c'est un des meilleurs jeux du genre. Que ce soit. Parce que, en plus, j'adore la manière dont il utilise sa mécanique de placement, les enjeux sont simples et évidents. Enfin, c'est vraiment très très bien. Donc voilà. Wally voilou. Et voilà pour les parties de la semaine. N'hésitez pas dans le chat sur Twitch ou dans les commentaires sur YouTube à me dire ce que vous avez découvert cette semaine. Si vous avez des choses très bien ou des choses très nulles, ou très peu. En audio règles, en plus, c'est vrai que pour le coup, Rumble Nation a cette pureté de règles. Alors il y a juste les histoires des cartes qui sont un peu. Qu'il faut expliquer, et puis les. Les donc le podcast dont parle Caducé, c'est des règles et des jeux. Non, c'est pas exactement ça, mais il y a le mot règle. Et en gros, c'est une explication de règles en podcast, ce qui peut paraître bizarre. Alors après, en vrai, c'est ce que font tous les reviewers, hein, ils expliquent les règles, ils font que ça en fait. Non, le mais la spécificité, c'est que c'est entre guillemets un podcast qui est fait pour vous accompagner un petit peu des règles et des jeux, si c'est ça, je suis pas fou. Je regarderai sur le passement du coup. Qui est là un peu, si vous voulez, pour vous accompagner lors de la mise en place, et de. Voilà, enfin vous pouvez un peu vous en servir pour expliquer le jeu. Et donc, plutôt que de vous emmerder à vous expliquer le jeu et tout. Il y a vraiment ce côté accompagnement, quoi. C'est pas juste présenter un jeu comme le font tous les reviewers, quoi. Donc voilà. Ouf, Pixies. Je n'aime pas du tout. Blagnac joue, pardon. Ok. Qui est un festival, j'imagine. Et The Great Pits, je le trouve plutôt cool. Mais Pixies, ouais, vraiment. Je ne comprends pas l'engouement qu'il y a autour de ce jeu, mais. Mais bon, tant mieux, hein. Enfin, tant mieux pour l'auteur surtout, et pour Bombix. Donc ouais, Rumble Nation, vraiment, ouais, des enjeux clairs et tout. Et ouais, très très bien. Ok, bon, passons donc à un peu de hors-jeu, puisqu'il n'y a pas de jeu vidéo, c'est Tipar. Alors, des BD. Uniquement le 23 mars. Ok, ben si vous êtes vers Blagnac le 23 mars, allez-y. Je sais pas où est Blagnac, ça m'a l'air d'être un truc du sud. Ou je dirais du Cognac ou de l'Armagnac. Moi, le 23 et le 24 mars, je serai à Mulhouse pour Happy Games, puisque. Enfin, le 24, puisque Jérém habite là-bas. On ira y faire un saut le dimanche, pour une fois que je fais un festival. La semaine dernière, le week-end dernier, c'était Épinal, j'y suis pas allé. Ah, à côté de Toulouse, là. C'est bien situé. Donc voilà pour ce qui est des actus. On passe donc et des parties. On va parler de bande dessinée. Bande dessinée Amer Béton, qui est un truc des années 90, qui est brillant. Alors j'ai lu l'intégrale. C'est vraiment ma découverte de la semaine, hein, Amer Béton. C'est trop bien. C'est l'histoire de Noiro et Blanco, qui sont deux gamins délaissés pour compte un peu dans une ville japonaise. Ça parle vraiment de cette marginalisation dans une ville où il y a de la yakuza, de la, bah, la pauvreté, la corruption, la violence. C'est assez violent, c'est assez sombre, hein, comme vision du monde, assez nihiliste aussi, et visuellement ça démonte. En termes de mise en scène, c'est fou, les moments où ils sautent et tout, c'est trop trop cool. Je trouve la fin un peu moins intéressante, il y a quelques moments qui perdent un peu en intensité. Mais ouais, les personnages sont trop bien, les relations entre les personnages sont trop bien. Je trouve, ouais, la fin autour de Noiro un peu. C'est pas ce que j'ai préféré. Mais sinon, ouais, 620 pages, mais ça se lit à toute vitesse. Mais c'est vraiment du manga seinen où t'as vraiment une vision du monde très très sombre, et des personnages réussis, quoi. Enfin, tout ce qui est les 20th Century Boys, etc. Enfin, vous pouvez y aller, quoi. Et ouais, vraiment super, j'ai trouvé ça. Il y a un film qui est sorti en 2006, alors je voulais le regarder, il est sur la plateforme de France TV, mais il est que en français ou en anglais, donc j'aimerais bien le regarder en japonais, puisque c'est la version originale. Donc à voir si j'arrive à le trouver autrement. Mais ouais, vraiment trop cool. Trop trop bien. Très très fort. L'île aux femmes, qui n'est plus disponible à la vente. Donc c'est de Zanzim, avec. Donc Zanzim, c'est la personne qui a fait notamment. Avec Hubert, non, il est... je sais plus. Je sais pas... Non, peut-être qu'il n'y avait pas Hubert dedans. Zanzim qui a fait Podom, donc on retrouve vraiment les visuels un peu qui font penser à Podom. Écoutez, c'est pas Podom hein, en termes de qualité. C'est un mec, donc lui, qui est dans l'entre-deux-guerres et qui s'effondre sur une espèce d'île où il y a des... Enfin, c'est pas des Amazones, mais c'est uniquement peuplé par des femmes qui récupèrent des mecs pour faire de la progéniture. Donc on retrouve des thématiques chères à Zanzim qu'on retrouve dans Podom et tout en termes de relations femmes et de place de la femme. Écoutez, ouais, c'est quand même moins brillant, je trouve, en termes de personnages et de écriture que Podom. C'est pas mal, mais c'est pas non plus mémorable, quoi. C'est l'île aux femmes. Ensuite, la légèreté de Catherine Meurice. Je vous en avais parlé pour les grands espaces. Je crois que j'avais plutôt apprécié. Là, la légèreté, c'est vraiment une réaction à Charlie, puisque Catherine Meurice est dessinée à Charlie Hebdo. Et donc, c'est vraiment comment sortir de ce trauma, en fait. Qui a été suivi par le trauma du Bataclan et tout, et ça parle vraiment de ça, hein, c'est très autobiographique, et ouais, c'est sûr, notamment à travers la bande dessinée, quoi. Et il y a encore des très très beaux visuels, hein, il y a vraiment des planches assez belles. Après, bon, il y a un côté extrêmement personnel là-dedans, où, ben, ouais, enfin, c'est clairement un moyen pour elle de sortir d'un truc, et de. Alors, je sais pas si elle a déjà fait de la BD avant, sûrement, mais en tout cas, d'expérimenter d'autres choses et tout, à recevoir, ça a beau être touchant et tout, j'avoue que c'est pas, ça m'a pas bouleversé plus que ça. Carnet de manif de Pedroza et Loïc Sécheresse. Alors, Pedroza, je l'adore, Sécheresse, je le connais pas du tout, et j'ai trouvé ça très très bien. Hein. Donc, c'est vraiment des manifs entre 2019 et 2020. Donc, entre les réformes des retraites et puis après Black Lives Matter, etc. Et ça parle de manifs, ben, notamment vers Nantes, dont ils sont originaires, je crois, plus ou moins, aussi à Paris. Et donc, c'est vraiment des portraits de différentes personnes qui participent aux manifs. Ça parle évidemment, voilà, aussi des gilets jaunes, etc. C'est évidemment un truc très actuel qui est dessiné en manif. Il y a plein de trucs très bien au niveau de l'écriture, ça parle de plein de choses super. Après, moi ça me parle beaucoup quoi. D'autant que bah voilà, c'est des moments où moi j'étais aussi là-dedans. Donc ouais, voilà, il y a vraiment des trucs assez marquants en termes de propos et de témoignages, et de banderoles, et le dessin s'y prête très bien, donc très recommandable. Le deuxième livre de la semaine avec Amère Béton, ça va être La mécanique des vides de Zéphyr, que je connaissais pas du tout comme auteur. J'ai été assez. Pouh, c'est assez zinzin, là aussi visuellement et tout. C'est autour du langage, notamment. Il y a une personne qui se réveille et qui en fait sort. Alors il y a un côté relation à la terre, directement à l'intérieur en fait, et aux grottes et tout. Et il découvre deux personnes et en fait, c'est lui, il écrit des lettres, des trucs, et les mots ils s'en vont. En fait, il n'arrive plus à parler. Donc ça parle évidemment de la communication, de la parole, aussi de l'évolution du monde. Et de plein de choses. Et du coup, Irma et Ocarina, c'est des semeuses de mots qui ont des graines qui vont faire pousser des haïkus, des poèmes ou des récits. Et donc voilà, vous voyez que tout parle autour du langage et de la parole et tout, et de ce qui fait un peu l'humain. Et ouais, c'est assez incroyable visuellement parlant, et même au niveau des thèmes, c'est très bien écrit. Mais ouais, il y a des planches vraiment, waouh, enfin. C'est assez fou quoi, parce que comme c'est évocateur de plein de trucs, comment tu restes là? Alors, non, on les voit pas trop parce que c'est vraiment le début, même si il y a déjà quelque chose hein, là-dedans. Mais c'est surtout par la suite où il y a vraiment des trucs complètement. Le grand combat de Zéphyr? Ok. Ah oui, bah je l'ai rajouté moi à ma wishlist de la médiathèque. L'esprit rouge, le grand combat et la dame à la licorne, c'est ça. Je vous laisse le petit trailer, je sais pas si vous entendez sûrement. Même au niveau du texte, c'est assez fort. Ça, enfin, ce genre de visuel, donc la visuelle de la couve, c'est très très bien, si vous avez l'occasion. J'ai lu Betty Boop aussi, donc qui parle de justement de la reconstruction, là aussi, après un cancer du sein et de relations, comment est-ce qu'on arrive à sortir de relations compliquées, à la maladie, de comment est-ce que voilà la relation à la famille et tout. Très très bien aussi, donc de Véro Cazzo et Julie Rochelot. Notamment au-delà des thématiques qui passent par le. Comment on appelle ça? Les feuillages, etc. Je sais plus. C'est l'acceptation de soi et tout. Pardon pour le micro. L'acceptation de soi, etc. De son corps, de sa maladie, de plein de trucs. Avec un autre groupe de femmes, etc. qui pratiquent justement les feuillages et compagnie. Moi, ce que j'ai trouvé brillant dedans, c'est l'aspect très. Ça se retrouve beaucoup dans la mise en scène, l'aspect très slapstick, entre guillemets. Où vraiment il y a. C'est vraiment muet. Et il y a un côté très ouais, slapstick, un peu cinéma muet, avec notamment des. Par moments, des. Les chapitres qui ressemblent vraiment à des écrans. Comment on appelait ça? Dans le cinéma muet. Vous savez, les moments où il y a du texte quoi, qui apparaît. Il y a un nom pour ça. Je sais plus. Je sais plus. Mais en tout cas, ouais, voilà, les différents chapitres, ça a un peu ce visuel-là et cette mise en scène-là. Et il y a vraiment un dynamisme de la mise en scène, du découpage et tout, qui fonctionne très très bien, au-delà des couleurs qui sont très jolies, enfin, auxquelles j'ai beaucoup accroché, donc je vous encourage à le lire, si vous pouvez, Betty Boop. Ensuite, Un jour sans. Alors celui-là, c'est un peu le moins bien de cette semaine dont je voulais vous parler, parce qu'il n'est pas inintéressant, c'est un truc à twist. Un twist qu'on voit venir, quand même. Que j'ai trouvé, ouais, bon, sans plus que ça non plus. Ça parle justement des croisades et de la relation entre ben, le Seigneur et sa femme. Et est-ce que lui a le droit de faire, que elle n'a pas le droit de faire, etc. J'ai pas trouvé ça foufou. Je trouve que le twist tombe un peu à plat et qu'il est un peu. Voilà, sur un truc de malédiction et que c'est un peu rigolo à la fin en termes de mise en scène, mais c'est pas non plus brillant. Un autre truc que j'ai beaucoup aimé, c'était La Prince et la Couturière de Jane Wang, dont j'aime beaucoup là aussi les visuels qui sont très différents, par exemple d'un Zéphyr ou d'un Mère Béton ou quoi, qui sont beaucoup plus dans la ligne claire, et qui parle. Alors, il a eu le Fauve Jeunesse à Angoulême, je trouve que c'est un très bon truc pour la jeunesse pour le coup, où bah, il y a le prince. Qui va une petite couturière qui va devenir couturière du prince, le prince qui spoil, ça arrive tout de suite, et Lady Crystalia en fait qui adore mettre des robes, etc. Ce qui bien sûr fait mauvaise figure auprès du roi qui eux veulent le faire marier avec ses prétendants. Et donc évidemment, ça va parler de leur relation à eux deux, de elle, comment est-ce qu'elle crée, comment elle est contrainte de créer pour un prince, et comment est-ce que elle peut ou non s'exprimer dans la création. Comment ce personnage aussi arrive à s'exprimer à travers des fugues et des expériences qui ne sont pas celles d'un prince normalement. Et ouais, très bien écrit, les relations entre les personnages sont bien, les visuels sont cool aussi, les psychologies, c'est de la jeunesse, hein, donc ça va. Mais ça, ouais, c'est. Je trouve ça assez cool, et notamment, je trouve que la manière de traiter tout ça pour la jeunesse est plutôt brillante. Et assez bien écrite et tout, donc je vous le conseille très fort si vous avez l'occasion. Alors c'est un gros pavé, mais il se lit quand même assez vite. Les vieux fours noirs, bon, très connu, mais j'avais déjà lu jusqu'au 5, j'ai lu le 6 et le 7, et ça reste dans la veine, c'est-à-dire des thèmes intéressants, qui sont des visions assez simples à identifier, qui vont pas bien loin quand on connaît ces sujets-là, mais qui sont toujours plutôt sympas. Je crois que c'est le 6, j'ai trouvé ça un peu quelconque. En fait, il y a toujours le problème de les thématiques sont cool, les personnages, on a plaisir à les retrouver, mais les histoires en elles-mêmes sont assez faibles, je trouve, et pas très très intéressantes. Alors, c'est pour aborder des nouveaux thèmes, par exemple ici le colonialisme et le white savior, etc. Bon. Voilà. Je trouve quand même que bon, il y a quand même une espèce de petit fil rouge qui se déroule et tout, et une évolution de personnage. Mais je trouve que même s'il y a toujours cette forme de tendresse et tout, il y a quand même une forme de ben oui, ok, on sait vers où vous allez. Et en gros, vous continuez un petit peu parce que c'est une série qui marche. Est-ce que vous n'avez pas déjà tout raconté sur cette série? Je ne sais pas. C'est pas désagréable, mais voilà. Et enfin, RIP. Donc vous voyez, on a parlé de RIP, le jeu de société. J'ai lu les trois premiers tomes. Il me reste encore le 4, 5, 6 qui n'était pas dispo pour l'instant à la médiathèque. Alors je comprends les réserves qu'il y a eu pour le coup sur la thématique de RIP. Parce que effectivement, c'est vraiment là aussi des laissés pour compte et des, entre guillemets, un revue de la société où vraiment c'est des pauvres types, quoi. Et qui ont. En fait, leur personnalité colle très bien au setup, mais du coup, il y a des questions un peu dures à aborder et assez. La mise en scène est quand même assez crue, assez sale, entre guillemets, que ce soit dans les couleurs et tout. Et il y a eu des trigger warnings et tout que je peux totalement comprendre sur des violences sexuelles, des violences, de la grossophobie, etc., qui encore une fois colle au personnage. C'est-à-dire que ça vient pas de nulle part. Je comprends par contre que à lire et à recevoir, ça puisse être assez violent. C'est pas mal, ça gagne, entre guillemets, j'ai lu que les trois premiers. Le premier, je le lis, je me dis, ok, bon, soit. T'as quand même un fil rouge, et il y a un peu un côté Rashomon où ça va croiser des points de vue des personnages, qui est assez cool. Donc j'ai hâte de lire le 4, 5, 6. Il y a une espèce d'intrigue et de curiosité qui s'éveille petit à petit au fur et à mesure des tomes. Voilà. On peut creuser les personnages sous différents angles et tout, et ça, c'est plutôt réussi. Mais voilà. Voilà pour leur jeu. Rien d'autre, pas de musique, pas de ciné cette semaine. Passons donc à la conclusion. Voilà donc pour l'hebdo de la semaine, qui définitivement était plus court que la dernière fois, même si avec. Bon, alors pour les podcasts, ce sera beaucoup plus court. Voilà. Si vous êtes en podcast, on a joué à The Brambles, un jeu solo de l'auteur de Heck, dont je vous ai déjà dit beaucoup de bien. On a joué à The Brambles, donc vous pouvez aller voir la vidéo YouTube si vous êtes curieuse ou curieux. Sinon, bah, on se retrouve une prochaine fois, semaine prochaine ou dans 2 semaines, je ne sais pas encore, nous verrons. Avec des nouvelles parties, des nouvelles découvertes. De l'actu selon ce qui est possible. Et puis voilà, passez une bonne fin de journée pour ceux qui sont en live, passez une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne nuit, un bon petit déj, je ne sais quoi pour ceux qui seraient sur YouTube ou en podcast. Bon courage pour la fin de la semaine, pour le boulot, prenez soin de vous. Et puis voilà, ciao!
Tu comprends? Les vrais clients ont changé. Et qu'on s'en aperçoit à peine, sauf les gens, sauf bien sûr, vous êtes au courant, mais les clients ont changé, je veux dire. Les clients de la télévision, c'est qui? C'est plus les auditeurs. Les clients de la télévision, c'est les annonceurs. C'est eux les vrais clients. Les annonceurs, c'est les vrais clients, il n'y a plus de. Et alors, je disais dans l'édition, ben. Il y a un risque, c'est que les vrais clients des éditeurs, ce ne soient pas les lecteurs potentiels, ce soient les distributeurs. Quand les distributeurs seront vraiment les clients des éditeurs, qu'est-ce qui se passera? Ce qui intéresse les distributeurs, c'est la rotation rapide. La rotation rapide, ça veut dire les trucs des grands marchés, à rotation rapide, régime du best-seller, etc. C'est-à-dire que toute littérature. Si j'ose dire à la becquette, toute littérature créatrice sera écrasée par nature.